Je vous salue, frères et sœurs. Je m'appelle Moussa Koné. Je suis le dernier et troisième fils de la famille de Koné. Mon père s'appelle Ibrahima Koné. Je voudrais vous parler aujourd'hui de mon témoignage. Ce que j'ai vécu. Le témoignage, c'est quelque chose de réel. Quelque chose dont on a vécu et qu'on peut montrer des preuves. Et en même temps, je vous donne un conseil. Frères et sœurs, ne vous laissez jamais tromper sur le salut de votre âme. On peut vous tromper par un chèque sans provision. Votre femme, votre père, votre sœur peut vous tromper. Mais le salut de votre âme, que personne ne vous trompe dessus. Voici, je suis né et à l'âge de 3 ans, j'ai déjà commencé avec mon père à lire le Coran. Et à 6 ans, je pars à l'école, comme les autres enfants. Mais 3 semaines après en classe, j'ai des problèmes de vue et je ne vois pas clair. Je suis opéré quelques jours après. Donc je reste à la maison. Mon père, qui était content de cela, parce qu'il ne voulait pas me mettre à l'école, comme mes 2 frères aînés. Puisque dans sa famille, il y a 40 enfants et personne n'a été à l'école. À ma naissance, déjà, il était imam. Alors, il m'a initié au Coran. À la maison, tout ce que je faisais, c'était lire le Coran. Je lisais très bien et j'aimais vraiment lire le Coran. Ainsi, à l'âge de 13 ans, je suis candidat au CEPE, candidat libre, je suis admis. Mais tout de même, ma vie scolaire n'est pas régulière. Je passe tout le temps à la maison à lire le Coran. Jusqu'à l'âge de 14 ans, brusquement, je suis vraiment tellement bien dans le Coran que j'enseigne les enfants de mon quartier. Et il y a plein d'enfants, des bérés, des guérés, des bétés, des webés, qui sont devenus, et des baoulés même, qui sont devenus des musulmans, à force de lire le Coran avec moi. Et tous les temps, tous les dimanches, je passais mon temps à enseigner le Coran aux enfants de mon quartier. Mais un jour, en lisant avec mon père, je lui ai posé la question de savoir, si ce soir, toi et moi, nous perdons la vie, est-ce que nous pourrions aller au paradis? Mon père m'a répondu dans toute sa sincérité. Il m'a dit, vraiment mon fils, je ne sais pas, je ne peux savoir parce que le Coran ne dit pas clairement si on peut entrer au paradis ou non. Alors j'étais très touché, mais mon père était sincère avec lui-même et avec son Dieu. Et avec moi, il était sincère. Il savait que je pouvais chercher aussi et trouver. Mais ça m'a beaucoup troublé, ce fait-là. Mais j'étais très initié au Coran et surtout à la lecture de certaines sourates. Et je voudrais toucher un passage, celui-ci, le fait que nous avions le pouvoir d'utiliser les versets coraniques pour faire d'autres choses. Par exemple, très jeune, à l'âge de 18 ans déjà, nous sommes partis un soir à Vridi. Il était 2h du matin, à l'emplacement actuel de la cire, et il y avait des broussailles et du sable. Nous sommes assis dans le sable, et j'ai commencé à réciter le Coran avec les 2 autres personnes. Je récitais la sourate miracle, la sourate Yassine. Yassine ou al-Quran, al-Hakim, innaka, lamin al-Mursalin. Je récitais. Pendant 10 minutes après, il est apparu un être bizarre, à quelques mètres de nous. Et l'un de nous s'est détaché, Adam en question, s'est détaché pour aller parler, converser avec cet être-là. Alors nous sommes là, j'ai continué toujours de réciter. Moi je savais pas ce qui se passait, mais on me disait simplement de réciter. À cause de mon habileté à la récitation du Coran, de la sourate Yassine, on me disait toujours de réciter. Et cet être qui est apparu a conversé avec Adama pendant 20 à 30 minutes. Et il est revenu. Et quand il est revenu, j'ai demandé à mon père, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est celui-ci? Il m'a dit, c'est un esprit. Et tu verras ce que l'esprit la fera demain. Alors le lendemain, nous étions dans la cour. Vers 16h, nous avions fermé toute la cour. Personne n'y était. Nous étions 3. Nous avons ouvert une grande malle. Et nous avions commencé à prier, à réciter le Coran. Je récitais toujours Yassine et aussi la sourate Ayatul Kursi, celle qui dit Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sunnatun wa la nawm lahu. J'ai continué de réciter et cet homme Adama a brusquement appelé le nom du Sénégal. Quand il a appelé le Sénégal, il y a des billets de banque entourés de plastique qui sont descendus d'en haut à partir du Sénégal et ça tombait, je regardais, je voyais du ciel, ça tombait. Et bientôt, la malle avait commencé à monter. Et aussi, il appelait brusquement, il appelait Haute Volta à l'époque. Et l'argent a commencé à tomber, des billets de 5 000. Tombait de là-bas, ça tombait du ciel. Et nous voyons, j'étais astonié, éterni. J'avais beaucoup peur, mais je voyais l'argent qui tombait. Et il a continué, et moi je continuais toujours de réciter la sourate Ayatul Kursi. Et l'argent tombait, il a dit maintenant Togo. Quand il a dit Togo, l'argent tombait et ça venait du Togo. Et brusquement, il a dit Ghana. Et quand il a dit Ghana, c'était le C10 qui tombait. Alors on a dit, ah, on n'a pas besoin de C10, arrête ça. Il a arrêté. Et voilà, bientôt la malle était pleine. Et d'où venait cet argent-là? Ça venait des banques de ces pays cités, avec le pouvoir des versets coraniques que nous utilisions. Imaginez-vous les comptables de ces banques-là. Demain, ils arrivent au service, il y a 2, 3, 4, 5, 10 millions qui sont manquants. Et que vont-ils faire? Pourtant, nous étions ici et nous manipulions tout ça. Cet argent est resté dans la malle et un serpent gros est venu en dessus et nous avons couvert. Cet argent devait rester 40 jours avant d'être utilisé. C'est pour vous signaler que la maîtrise du Coran nous donnait une autre science, une façon de l'utiliser. Et en deuxième lieu, je vais vous donner un autre exemple. Il y avait un homme qui aimait une femme. Il était professeur et la femme était là, une blanche, et il n'avait aucun contact respectif. Il aimait la femme et la femme ne l'aimait pas. Il n'avait même pas des pensées d'amour. Et cet homme est venu me trouver un jour, il dit, Moussa, fais-moi quelque chose pour que j'épouse cette femme-là. Et je lui ai dit, va me chercher des cheveux de blanc. Il est allé au plateau chez le coiffeur, il m'a apporté des cheveux de blanc. Et j'ai pris son nom, j'ai fait Kawatim. Ceux qui sont marabouts savent, j'avais Kawatim. Les chiffres de son nom sont sortis. Et aussi, je sors les chiffres de nom de la femme. Et j'entoure, je fais un carré, je fais des chiffres, je les mets en ordre. Et je mets le nom du prophète Mohammed des quatre côtés. Et aussi, je fais le papier, aussi un talisman, et je l'écris sur le wanha. J'ai donné à ces messieurs, et bientôt, il y a eu un mariage d'à peu 3 mois. Maintenant, ils ont un enfant qui a 15 ans. Alors, c'était un mariage, pas selon la volonté de la femme, elle n'en savait rien. Mais elle était manipulée par le pouvoir que nous avions utilisé à travers le Coran. Mais maintenant, je regrette cela parce que j'ai rencontré cet homme. Le pouvoir de Dieu est illimité, mais le pouvoir du diable a une fin. Le mariage ne marche plus. L'enfant a 15 ans, je me suis repenti devant lui. Je dis, mon frère, si tu savais ce qui s'était passé, maintenant, ça c'est pas bon. C'était un pouvoir démoniaque qui vous avait uni. Mais vraiment, je me suis repenti en larmes devant cet homme. Ceci était une étape pour vous citer un peu ce que nous faisions avec la maîtrise du Coran. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam réel. Je viens au fait que quand j'avais demandé à mon père, est-ce que nous pouvions être sauvés si nous mourions tout de suite? Et il m'a dit, selon le Coran, il ne savait pas, c'était pas possible. Cette idée m'ayant frappé, j'ai gardé ça en tête pendant des années. Et aussi, je continuais de le servir dans la mosquée, puisqu'il était déjà imam. Alors, je suis arrivé à un point où il fallait que je travaille parce que mon père avait tout, mais seulement, il n'avait pas l'argent liquide. Donc, j'ai commencé à travailler premièrement au PTT, ça a été à la Sonitra après, et aussi, je me suis trouvé à la Sautici, et finalement, un jour, en 80, je me suis trouvé comme marin parce que le président de la République avait sablé le champagne, il avait dit qu'il y avait du pétrole en Côte d'Ivoire, et j'ai eu la chance d'être parmi les premiers Ivoiriens à travailler sur ces barges pétrolières. C'était des plateformes américaines qui foraient dans la mer pour extraire le pétrole, et vraiment, j'ai eu un remplacement de 2 semaines dessus. Et 2 semaines, ça a finalement duré 8 années. Bon, pendant ce temps, je me trouve déjà en 84 du moins. Et en 84, il y avait le commandant du bateau sur lequel je travaillais, c'était Seth Kodje. Et ce bateau était très énorme, grand. Et le commandant s'appelait Welford, il était du Mississippi.